Et les moments dans l'évangile de Jean où il dit « je suis ». Et on a vu qu'il y a des fois où il dit juste « je suis ». Puis on attend la suite, mais il n'y en a pas. Et on a vu que ça, c'est le nom de Dieu. Dieu s'appelle « je suis ». Mais il y a d'autres fois où il dit « je suis », puis il ajoute un mot après. Puis ça, il y en a sept, et c'est vraiment important. Oui, oui, I'm gonna do bilingual, but thank you. Thank you for... Oh, yeah, okay. So, donc, le deuxième « je suis » ce matin, donc on a vu « je suis le pain de vie » la semaine passée. Aujourd'hui, « je suis la lumière du monde ». Et Jésus a prononcé cette déclaration quand il dit devant une foule « je suis la lumière du monde ». Ça, c'était à la fête des huttes ou la fête des tabernacles. C'est à Jérusalem, dans le temple, devant une foule. Et voici ce qu'il dit plus spécifiquement. Il dit, et je vais le dire en anglais d'abord, « I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but on the contrary, he will have the light of life. Hein? » Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et un peu plus tard, dans la même fête, il va rajouter ceci, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. While I am still in the world, I am the light of the world. » Alors, Jésus parle de lui-même ici, mais ce qui nous intéresse, c'est le nouveau style de vie dont Jésus parle ici et qu'il rend possible par sa propre personne. Hein? C'est un style de vie auquel il nous invite. So, Jesus is speaking about himself here, but he's also speaking about a new lifestyle that he's inaugurating by his own person. And we, each one of us is invited to this new lifestyle, and that's what I want to talk about this morning. On va voir que ce nouveau style de vie, ça peut être appelé marcher avec Jésus dans la lumière. Et c'est quelque chose qui est plus facile à comprendre si tu es humble, puis plus difficile à comprendre si tu es orgueilleux. Et donc, c'est une invitation à l'humilité aussi. Je vais expliquer plus tard. All right, so, this lifestyle is for humble people. Like me. No, c'est une blague. et c'est une invitation à l'humilité. Donc, ce qu'on va voir ce matin, trois aspects. Premièrement, alors la fête des huttes, c'est quoi? Parce que la fête nous aide à comprendre ce que Jésus essaie de dire. C'est comme un contexte. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est la vraie lumière? Et puis, troisièmement, le symbole de la lumière et des ténèbres, ça se réfère à quoi dans nos vies? Alors, allons-y. Le contexte de la fête des huttes. The Feast of Tabernacles, where Jesus said this. What does the context tell us? Donc, il y avait trois grandes fêtes pour le peuple juif qui étaient des fêtes de pèlerinage à l'époque de Jésus. C'était des fêtes où tout le monde devait aller à Jérusalem et trouver de l'hébergement. Et la fête des huttes, ça se passait en automne, c'était la troisième et dernière, durant la période des récoltes. Puis, il y avait beaucoup de choses différentes qui s'y passaient, des rituels, des symbolismes, des activités. Mais une de ces choses, c'était l'utilisation de la lumière. C'était une fête de lumière. So, the Feast of Tabernacles, one of the aspects of it, there are many different aspects, but one of them is there was a use of light. Et les documents historiques nous rapportent que les Juifs, à un certain moment, avaient installé dans le nouveau temple et fait plutôt dans le parvis extérieur du temple. Donc, dehors, dans l'enceinte du temple, quatre énormes candélabres de 75 pieds de haut. Ça, c'est 23 mètres. Et c'est très haut. Qu'ils allumaient durant une des nuits de la semaine de la fête, à un certain moment des cérémonies. So, in this feast, there were four huge, I mean huge, candelabra in the outside court of the temple, and they were 75 feet high. That's really high. And they would light them during one of the nights. Et il y avait des pèlerins qui étaient venus puis qui campaient dans des tentes, en fait, sur les collines à l'extérieur de Jérusalem. Ils étaient venus pour la fête et eux pouvaient allumer aussi une lampe à l'huile après qu'on avait allumé les candélabres, les espèces de lampadaires, dans notre nouveau langage d'aujourd'hui, des lampadaires. Et ça faisait quelque chose de très beau. Il y avait des petites lumières qui brillaient et on parlait de la lumière à ce moment-là dans la liturgie. Et c'était comme dans... un peu comme dans les concerts rock, vous savez, quand on va au stade et puis on voit juste les lasers sur le stade pendant que le groupe joue, puis là, ils demandent au monde de sortir leur lumière. Souvent, c'est leur téléphone cellulaire. Puis là, des fois, le monde, ils les font bouger au rythme de la musique. Et ça fait comme un ciel étoilé. Et bien, ce que les historiens imaginent, c'était que cette nuit-là, c'était un peu comme ça à la fête des huttes. So after they lit the candelabra, which were high up and very visible, but the people who had come to Jerusalem would light little lamps, and it would be like in a rock concert where everyone takes out their phone and sways to the music, and it would create a beautiful visual effect. Et on parlait de la lumière à ce moment-là dans la fête. C'était un rappel de la sortie d'Égypte. Hein? On avait parlé de ça la semaine passée, quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », puis ça rappelait la sortie d'Égypte. Bien, « Je suis la lumière du monde » rappelait que Dieu lui-même éclairait le peuple hébreu dans le désert quand ils ont fui l'Égypte, ils sont sortis, et conduisait dans le désert Israël vers la terre promise. Le jour, c'était une colonne de brouillard illuminé. On appelait ça la nuée dans l'ancien langage, mais c'est comme une espèce de nuage vertical qui était rempli de lumière. Et la nuit, c'était carrément du feu, une colonne de feu. Et le peuple suivait cette colonne pour aller vers la terre promise. Cette colonne guidait le peuple, protégeait le peuple, réconfortait le peuple, puis lui donnait un chef, un leadership, qui était Dieu, parce qu'il fallait suivre et obéir. Et elle conduisait à l'endroit voulu. So, the column of bright light that was guiding Israel in the desert, that's what this thing of the candelabras at the feast was commemorating. People of Israel exiting Egypt and following this column of light. It's a bit like last week when Jesus said, I'm the bread of life, and it reminds people of when God sent down the manna. Donc, Jésus, lorsqu'il dit en pleine fête, dans le temple, devant cette foule, moi, je suis la lumière du monde, fallait-tu pas avoir du front tout le tour de la tête, quand même? C'était vraiment très fort comme exclamation sur lui-même. Ça devait avoir tout un effet sur les gens. Très dérangeant pour certaines personnes, mais très éclairant pour les autres. Je suis la lumière, hein? C'est moi qui guidais Israël dans le désert. C'est moi qui éclairais leur sentier. Hein? C'était l'Éternel, c'était moi qu'est-ce qui se passe ici? So I was the one lighting the way for Israel in the desert. I am the light of the world. Dans quel sens est-ce que Jésus est la vraie lumière? Donc, Jésus fait cette déclaration choc, mais il faut dire que pour ceux qui étaient proches de lui, ses disciples, ses apôtres et les autres qui étaient proches de lui, sa vie était si frappante que même s'ils ne comprenaient pas tout, ils se rendaient compte qu'ils étaient en train de découvrir une personne vraiment hors de l'ordinaire. Donc, Jésus dit qu'il est la lumière. Une caractéristique de la lumière, mes frères et sœurs, c'est que la lumière se prouve d'elle-même, OK? Je parle dans le concret, là, la lumière. Moi, quand une de mes filles est en train de lire au salon et puis que je vois qu'elle n'a pas allumé la lampe qui est à côté d'elle puis est en train de lire dans l'obscurité, moi, ça me dérange. Alors, je vais et puis j'allume la lumière pour ma fille. Et puis, que ce soit l'une ou l'autre, les deux font la même chose, je ne sais pas pourquoi. Et toujours, elle me remercie. Elle me remercie automatiquement. Jamais elle me dise, papa, quelle preuve as-tu que ça aide d'allumer la lumière? Non, elle voit que les mots sont plus clairs. Tout d'un coup, devant leur visage, le noir, il est plus vif sur le blanc de la page et elle me remercie. La lumière n'a pas besoin de se prouver elle-même, elle s'explique d'elle-même. Et Jésus, c'est la même chose. Quand on s'approchait de lui, quand on l'écoutait parler, les choses devenaient plus claires, plus belles. La vie prenait des couleurs, un peu comme Héloïse nous montrait tantôt. L'avenir prenait toutes sortes de couleurs d'espoir quand lui y expliquait la réalité. Évidemment, si quelqu'un était rempli d'orgueil spirituel, d'autosuffisance, cette lumière était impossible à voir. Mais pour les autres, ça commençait à rentrer, puis on se disait, cet homme-là, ce Jésus-là, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et j'avais dit il y a deux semaines que l'apôtre Jean, qui a écrit le quatrième évangile, avait vraiment pris le temps de réfléchir à tout ce qu'il avait vécu avec Jésus, puis tout ce que les autres avaient vécu, parce que les premiers chrétiens, ils se parlaient, ils disaient, « Te souviens-tu quand il a fait ça? » Ça nous avait vraiment frappé, mais qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Puis là, après ça, ils fouillaient dans l'Ancien Testament, puis, « Ah, peut-être c'est une référence à… » En tout cas, il y a eu tout un processus de réflexion, et c'est pour ça que l'Évangile de Jean, c'est tellement un beau chef-d'œuvre. Et quand Jean finalement écrit, il dit, oui, ce Jésus était plus qu'un simple prophète, c'était la présence personnelle de Dieu sur la terre pour les hommes. So, Jesus is the light of the world. And a bit like when you turn on a light and then you see that it really helps you read. Because the words become clearer on your page. Jesus was the same. He didn't, in a sense, he didn't need to prove by argumentation. The people close to him saw, wow, life takes meaning when he explains it, as long as they were humble and not filled with themselves. And then John wrote about this. He thought about it a long time. And he wrote about this, and he said, firstly, Jesus, before the beginning of time, in the person of the Son of God, was eternally God's light and God's glory. During his life on earth, during his incarnation, he brought God's light to men. And in the book of Revelation, an author called John, and many people think it's the same John, the apostle, wrote that in the New Jerusalem, so we're talking down the road in the future, in the New Jerusalem, there's not going to be any need for a sun or a moon, because the glory of God will éclairer, will illuminate the whole city, the whole new creation, and the light will come through this a sort of a torch, an eternal torch that is the Lamb, that is Jesus, that is the Son of God. Donc, past, present, future, Jesus really shines the light of God. Donc, voilà, donc, Jean dans son évangile dit, depuis toute éternité, Jésus est la gloire de Dieu. Quand il était sur la terre, il a fait connaître la lumière et la gloire de Dieu. Et dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il va être le flambeau de la gloire de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Autrement dit, qu'il n'y aura pas besoin de soleil. C'est Dieu lui-même qui va être le soleil à travers Jésus. Assez extraordinaire. Maintenant, quelque chose d'important. Jésus affirme dans l'Évangile de Jean que Dieu installe un télescope sur la terre qui aide les humains à voir correctement cette lumière. Hein, c'est comme un grand télescope. Puis ce télescope, c'est la croix. Oui, c'est par la crucifixion de Jésus que la vraie lumière de Dieu arrive jusqu'à nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir Dieu plus clairement. Jésus appelle sa mort son élévation. Un peu comme s'il appelle quand il va être cloué sur un poteau puis planté dans une colline, cette humiliation-là, cette souffrance-là, est comme une intronisation. C'est comme aussi planter un candélabre qui va briller, qui va permettre aux gens de voir la gloire de Dieu, de comprendre la lumière de Dieu. Donc, il y a quelque chose de contraire ici. Il y a quelque chose de paradoxal, puis il faut bien noter ça, parce que ça choquait les gens quand les premiers chrétiens ont commencé à prêcher. Pour connaître Dieu, il faut croire au crucifié. C'était un message bizarre, parce qu'un crucifié, c'était un condamné. C'était aussi quelque chose de laid. Mais c'est ce que Jésus a dit, que Dieu va m'élever et les hommes qui vont regarder à moi vont vraiment voir la lumière de Dieu. Donc, très important, il y a un télescope qui aide l'œil humain à voir la lumière de Dieu, et ce télescope planté sur le flanc du monde, c'est la croix, c'est Jésus crucifié. OK? On va aller plus loin là-dedans dans quelques instants. So what I was saying was, Jesus is the light of the world, but God planted a telescope for ordinary humans to be able to see this new light, this powerful light of God, and that telescope is the cross of Jesus. It's kind of like a lens through which we understand truth. We understand God's light. Puis là, j'arrive à mon dernier point. C'est quoi dans notre vie? What does this mean in our life as Christians? Parlons un peu de ce nouveau style de vie auquel Jésus nous appelle. Cela commence avec une nouvelle façon de voir le monde et la réalité. Donc, en nous plaçant devant sa crucifixion, Jésus va jeter une nouvelle lumière sur ma propre vie, okay? Et ma propre façon de vivre. sa croix me dévoile à moi-même. Okay? C'est ça la clé. The cross reveals myself to myself. It sheds light on me. And it permits me, in God's grace, to look at myself. En fait, cette croix me juge et me condamne pour ensuite me pardonner et me libérer. OK? Je répète ça. La croix te juge et te condamne dans ton péché pour ensuite te pardonner et te libérer. La lumière qui vient de la croix tourne notre monde à l'envers. Dieu voit le monde complètement différemment que nous. Et comme j'ai dit au début, au pied de la croix, c'est les humbles qui comprennent mieux. D'ailleurs, Jésus a dit, au pied de la croix, les derniers, souvent, vont être les premiers. Puis les premiers, souvent, vont être les derniers. OK, so, at the foot of the cross, life is completely different. And we see the world in God's perspective, and often the first are last. Il y a longtemps, j'ai entendu un pasteur raconter une expérience décisive dans sa vie spirituelle. Et cette histoire m'a vraiment aidé à comprendre la vie au pied de la croix. Alors, ça fait longtemps, je vais raconter l'histoire du mieux que je peux. Et ça se peut qu'il y ait des détails qui soient inexacts, mais l'essence est la même. Alors, ce pasteur racontait qu'un jour, il avait participé à un groupe de découverte de Dieu dans un quartier très pauvre de Los Angeles. Et les gens étaient assis en cercle dans des chaises et on avait décidé de procéder à un temps de partage où il fallait carrément répondre à la question suivante. Y a-t-il quelque chose dans ton cœur pour lequel tu aimerais demander pardon à Dieu? OK? Y a-t-il quelque chose dans ton cœur pour lequel tu aimerais vraiment demander pardon à Dieu? Alors, chacun parlait à tour de rôle, et puis le pasteur, lui, allait être le dernier dans le cercle. Et il était content, parce que ça lui donnait le temps de préparer sa réponse. Il se disait, je suis quand même un pasteur, le monde ne me connaît pas, mais ils savent que je suis pasteur. Il faut que, d'un côté, il faut que je démontre que je sais c'est quoi de confesser mes péchés. Hein? Quand même, je suis un pasteur. Mais de l'autre, il faut que je fasse attention à ce que je dise, à ce que j'avoue publiquement. Et puis là, il a eu cette pensée, je pense que ça va être correct parce que moi, mes péchés, j'en ai, mais ils ne sont pas trop graves. C'est des péchés qui sont comme jugés acceptables dans le monde des chrétiens, dans les lois non dites du monde chrétien. Et il a commencé à préparer sa réponse dans sa tête. Mais il écoutait parler les autres à tour de rôle et il était frappé de plus en plus par la profondeur des confessions. Et puis, il commençait à avoir un sentiment de honte et même il se disait, je sens que je ne suis pas digne d'être ici. Puis lorsque la femme à côté de lui a ouvert la bouche, c'était juste avant son tour, il a entendu ceci. Elle a dit, « Je voudrais tant recevoir le pardon de Dieu pour ma vie. Je suis depuis longtemps dans une dépendance sérieuse à la cocaïne. J'ai eu 3 enfants de 3 hommes différents à travers des relations éphémères qui servaient en partie à soutenir ma dépendance. » J'aime mes enfants de tout cœur, mais les 3 m'ont été enlevés par la protection de la jeunesse. J'aimerais tellement m'occuper d'eux, savoir qu'ils sont corrects, savoir qu'ils sont en sécurité, mais depuis des années, je n'ai aucune idée où ils sont. Maintenant, je commence à avoir de l'aide pour ma dépendance, mais je vois que ça va être long. Et ma dépendance est la seule chose qui me reste avec ma tristesse et ma culpabilité. Mes enfants, eux, je les ai perdus. Quand le pasteur racontait cette histoire dans un sermon beaucoup plus tard. Bon, j'écoutais. Bon, il n'a pas dit finalement qu'est-ce qu'il a partagé au groupe, quelle était sa confession. Mais il nous a dit qu'est-ce que Dieu lui a fait comprendre ce jour-là. C'est qu'au pied de la croix, c'est ceux qui se laissent scruter, juger, éclairer par la vérité de Dieu et par l'amour de la croix, c'est eux qui vont ensuite marcher dans la lumière de Dieu. Amen. Et cette femme qu'on dit à première vue, quel loser, quel idiote, quelle pécheresse finalement, un peu comme les contemporains de Jésus. Mais dans la mesure qu'elle est venue à la croix, elle est déjà une championne de l'Évangile, une héros de la grâce de Dieu. Elle va commencer à éclairer les autres, n'est-ce pas? I'm going to tell this story in English. So, there was a pastor who was invited to a confession group in a poor part of town in Los Angeles, and everyone in the group had to answer the question: is there something you'd like to confess to God? And he had prepared his answer to present kind of nice sins that are sins but that aren't too serious. But just before his turn to speak, a lady confessed that she was a cocaine addict and had had 3 children that were all taken away by youth protection because of her addiction. And she wanted to confess to God that she loved her children, wanted to protect them, wanted to help them, but she didn't even know where they were. And then that pastor realized, wow, what is this game that I'm playing of trying to look good as when really coming to the cross means come as you are and let God's light in to shine on my darkness. Donc, moi, je pense que ici à l'Oasis, si on fonctionnait de plus en plus avec l'aide de Dieu, comme un cercle de pécheurs confessants, comme le cercle que je viens de décrire, pécheurs anonymes, si on grandissait comme ça, comme communauté, puis qu'on s'éloignait de ce piège qui nous guette tout le temps, ce piège de vouloir toujours présenter la belle apparence chrétienne. Puis le piège, c'est souvent le pasteur qui tombe le premier dedans, comme on a vu. Mais si on va dans cette nouvelle direction-là, je crois qu'on va de plus en plus vivre dans la lumière brillante de Dieu. On essaye-tu? On continue? Je pense qu'on le fait déjà, mais il faut qu'on aille plus loin. Et on peut s'entraider les uns les autres, et je vais terminer avec cette phrase, « Laisse-toi scruter par la lumière de la croix ». Beaucoup d'entre nous, on a de la misère. On a de la misère à se laisser scruter. Puis la preuve, c'est si vous habitez avec du monde, puis vous vivez avec du monde qui vous font des reproches, puis vous répondez avec de la colère aux reproches qu'on vous fait, je plaide coupable. Ça m'arrive souvent. C'est la preuve qu'on n'aime pas ça quand la vérité sort. Mais on peut s'entraider les uns les autres. Et surtout, le Saint-Esprit peut nous aider à venir humblement à la croix. Voici ce que le même Jean dit à une église locale pour leur expliquer davantage comment vivre dans la lumière. Jean écrit ceci aux premiers chrétiens, il dit, qui vivent en église locale, hein? Dieu est lumière. et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, 5 à 9. Ça vaut la peine de prendre note de la référence. Hein? C'est, mon sermon va être terminé dans une minute, mais j'aurais pu faire tout un sermon où on pourrait creuser ça. Peut-être on le fera une autre fois. Et le mot ici, « confesser », est traduit dans la nouvelle version 21, « si nous reconnaissons nos péchés ». Alors, confesser, ce n'est pas nécessairement un rite ecclésiastique. Ça peut être une reconnaissance et ça peut être aussi d'être capable de le dire à un autre frère, une autre sœur. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Jésus est la lumière du monde. Jesus is the light of the world. And 1 John 1, 5-9 gives us a little bit of how that can work in a youth group, in a church, just this openness to come to the cross and let God speak to us about ourselves and perhaps even confess our weaknesses directly to God and in some cases to one another. This is something that can actually be worked out in practice, and we don't have time to talk about how, but it's something that maybe you can reflect on as a church. En passant, si vous venez vendredi soir, on va commencer un peu. Parce qu'on va avoir un moment de confession et hop, ça va être inconfortable, ça va être nouveau, mais je crois que ça va nous aider, par la grâce de Dieu, à aller dans cette direction.